Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, début ce jeudi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP pour les élèves de la 8e année. On compte au moins 65 000 candidats de plus cette année, selon la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou. Vous allez l'entendre en début de cette édition. Lutte contre Ebola avec cette autre agression d'une équipe de riposte mardi dernier au village Toutou dans Rwampara. Nous sommes en Ituri. La cour d'appel de l'Ituri a annoncé désormais des poursuites contre toute personne qui diffuserait des fausses informations ou qui entraverait la riposte. L'invité de ce journal est le secrétaire général du syndicat libre des médecins, Silimed. Docteur André Kasongo Kasomboy parle de la décision des membres de ce syndicat d'arrêter le travail en cette période de la maladie à virus Ebola. Et merci encore une fois d'être avec nous, Alain Goya, sur la technique. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au moins 1 654 905 candidats, dont près de 48% des filles, passent ce jeudi et demain vendredi la session ordinaire du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Lors du lancement officiel de ces épreuves nationales, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a indiqué que ces chiffres enregistrent une hausse de 65 000 candidats. Raissa Malou encourage les finalistes de l'éducation de base à passer ces examens avec calme, discipline et concentration. Les propos de Raissa Malou ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
L'orientation scolaire et professionnelle ne doit ainsi pas être considérée comme une formalité administrative. Elle engage l'avenir de l'élève, celui de sa famille et au-delà, celui de la nation. Elle doit aider chaque enfant à mieux se connaître, à faire un choix éclairé et avancer dans une voie où il ou elle pourra progresser, réussir et contribuer utilement au développement du pays. À vous, chers candidats, je demande d'aborder ces épreuves avec calme et discipline. Faites appel au travail accompli durant votre parcours. Concentrez-vous, respectez les consignes et donnez le meilleur de vous-même. Votre réussite doit être le résultat de votre mérite. Je m'adresse également à vous, parents et tuteurs. Pendant ces deux jours, votre rôle demeure essentiel. Veillez à ce que vos enfants soient présents, ponctuels, sereins et correctement accompagnés. L'avenir scolaire d'un enfant se protège aussi par l'attention quotidienne de sa famille. À tous les intervenants mobilisés, que la nation attend de vous rigueur, probité et sens du devoir.
Notez que ce test qui consacre la fin du cycle de l'éducation de base, 8e année enseignement, 2e cycle d'orientation, CO, se tient concomitamment au pays, ainsi que dans les centres hors frontières de Cabinda et de Luanda en Angola. Par ailleurs, ces épreuves ont été lancées dans au moins 146 centres de la province éducationnelle Nord Kivu 1. Mais selon les autorités scolaires, deux de ces centres sont exceptionnellement ouverts au Rwanda voisin. L'un à l'école internationale de Gisenyi et l'autre à l'école consulaire de la RDC à Kigali. Dans la province éducationnelle Nord Kivu 3, qui couvre Masisi et Walikale, ces épreuves se tiennent dans un contexte d'insécurité persistante. Bernard Nyangi pour plus de détails.
Environ 50 000 élèves de 8e année de base, dont 23 191 candidates, prennent part à ces examens dans la province éducationnelle Nord Kivu 1, couvrant la ville de Goma et les territoires environnants, Rutshuru et Nyiragongo, malgré un contexte sécuritaire et humanitaire complexe. Le lancement officiel a eu lieu au complexe scolaire La Joie à Goma. L'inspection provinciale principale de l'EPST Nord Kivu 1 a confirmé que deux inspecteurs ont été autorisés à se rendre au Rwanda pour superviser les centres, ce qui permet aux élèves déplacés ou empêchés de traverser vers Goma, notamment en raison de la fermeture des frontières liées à l'épidémie d'Ebola, de participer aux épreuves. Par ailleurs, dans la province éducationnelle Nord Kivu 3, couvrant le territoire de Walikale et Masisi, les données restent encore partielles. Dans la sous-division de Masisi 1, l'une des quatre qui compte ce territoire, 2241 élèves, dont 1145 filles, sont inscrits aux épreuves. Le sous-proviseur de M. Luc Nyamulinduka précise que deux centres sur les 11 de son entité ont été délocalisés en raison de l'insécurité persistante dans la région.
Bernard Nyangi était en ligne depuis Goma. Et dans la province éducationnelle Maniema 1, plus de 26 000 candidats, dont près de 12 300 filles, affrontent ces épreuves. Ils sont répartis dans 80 centres, couvrant les 9 sous-divisions de la province. La cérémonie officielle s'est tenue à l'école primaire Kindouville, où le vice-gouverneur Corneille Katisamba assura l'intérim du gouverneur en mission à lancer les examens. Ces épreuves se déroulent également dans les territoires de Lobutu, récemment marqués par des affrontements entre les Wazalendo et les FARDC. Ces examens, qui s'étalent sur 2 jours, sont supervisés non seulement au niveau provincial, mais aussi par des équipes venues du niveau national. Radio Okapi à Kindu, Florence Kizalunga.
Bien avant le lancement officiel, le vice-gouverneur Corneille Katisamba a pris la parole. Il a exhorté les élèves à travailler avec sérieux et à fournir un effort individuel tout en mettant en garde contre les comportements d'anti-valets, rappelant que seule la discipline et l'intégrité ouvrent la voie à la réussite.
En tout cas, j'ai exhorté seulement les apprenants de pouvoir passer leur examen avec beauté, qu'il n'y ait pas de tricherie. Il faut aussi les superviser. Puissent aussi accompagner les élèves afin que ces enfants-là puissent passer leurs examens sans difficulté.
De son côté, le prophète de Muto Balingen est revenu sur l'objectif du Tena Sospe.
Le test d'aujourd'hui, c'est pour la sélection des enfants. C'est-à-dire, à l'issue de ce texte, les enfants seront orientés selon leurs compétences et leurs aptitudes. Donc ici, nous voulons que les enfants soient orientés selon leurs capacités.
Pour leur part, les élèves affirment être sereins pour ces épreuves.
J'ai envie de passer mon Tena Sospe pour que j'entre en première. Nous avons été bien préparés.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Kwilu, pendant ce temps, c'est le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo qui a officiellement lancé ce jeudi à Bandundu la 5e édition du Senasot à l'Institut Longo. Selon l'inspecteur principal provincial, plus de 21 000 candidats, dont plus de 10 000 filles, participent à cette épreuve dans la province éducationnelle Kwilu 1. Paul Pakou Zitumbaza a invité les élèves à aborder cette évaluation avec calme, confiance et sens des responsabilités. On écoute tour à tour Philippe Akamituna, gouverneur du Kwilu, et Paul Pakou Zitumbaza, inspecteur principal provincial au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bandundu Développement.
J'encourage les élèves filles de choisir les filières techniques qui jadis étaient réservées seulement aux garçons. Voulons que les ingénieurs filles soient aussi nombreuses que les garçons. Pour terminer, un conseil pour vous les finalistes est d'être attentifs et répondre calmement aux questions posées. N'ayez pas peur, c'est un examen comme tout autre que vous aviez franchi.
Le Kwilu 1 a inscrit 21 190 candidats, dont 10 948 garçons, soit 51,6%, contre 10 242 filles, soit 48,3%, évoluant dans 797 écoles. Tous ces candidats vont se mesurer dans 106 centres de passation disséminés dans 6 sous-divisions.
Autre chose à présent, alors que la riposte contre Ebola se poursuit en Ituri, un nouvel incident est survenu mardi dernier dans le groupement de Tseré en zone de santé de Rwampara. Une équipe de surveillance venue enquêter sur un cas suspect a été violemment prise à partie par des habitants. Un médecin a été ligoté et menacé de mort avant d'être secouru par les forces de sécurité. Le récit de Jean-Claude Lokidili.
Les faits se sont produits dans le village de Tutu. Selon les membres de l'équipe de surveillance, ils effectuaient une investigation autour d'un cas suspect d'Ebola lorsqu'ils ont été attaqués par plusieurs habitants armés de machettes et de pierres. Le médecin chargé du prélèvement a été arrêté, ligoté et séquestré. Ses collègues ont réussi à s'enfuir avant d'alerter les services de sécurité dont l'intervention a permis sa libération. Le chef du groupement de Tere, Zamundu Batagura, condamne fermement cette attaque et appelle la population à soutenir les efforts de riposte.
De la population à la jeunesse de ne plus s'attaquer au personnel soignant, aux équipes de riposte. Toute la jeunesse du groupement essaie vraiment de rester très vigilant. Lorsqu'il y a un cas, il l'amène directement à l'hôpital. Que les gens cessent de dégoûter les hommes de mauvaise foi dans des réseaux sociaux qui publient des messages des mensonges.
Face à la désinformation, la procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri, Edoxi Mansouama, a annoncé avoir instruit les magistrats et les services compétents de poursuivre toute personne implique impliqués dans la diffusion de fausses informations ou dans des actes visant à entraver la riposte. Les autorités sanitaires rappellent que la collaboration des communautés permet de détecter rapidement les cas suspects et de limiter la propagation de la maladie. Mounia Jean-Claude Louki, d'Ile Radio Kapi.
À Lubumbashi, un cimetière moderne est en construction à quelques mètres de la source d'eau de Kisangade qui alimente le site de captage d'eau de Kimilolo. Dans une déclaration ce jeudi, le directeur régional de la régie des eaux dans le Grand Katanga annonce que cette station alimente en eau potable plus de 60% de la population de la ville de Lubumbashi. L'érection du cimetière sur ce site est vivement décriée par la régie des eaux qui exige sa délocalisation. Les points avec Paul Mounanga.
Les travaux d'aménagement de ce cimetière moderne qui s'effectuent dans la zone de captage d'eau de la régie des eaux ont débuté depuis quelques mois, indiquent certaines sources. Le site de captage d'eau de Kimilolo est l'une des infrastructures vitales de la régie des eaux pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Lubumbashi. Le cimetière qui est en construction menace le site, indique le directeur régional de la régie des eaux du Grand Katanga. David Angoyorutia annonce que la présence de ce site d'inhumation à côté de la zone d'exploitation d'eau est un danger pour la santé publique.
Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, la Régie des eaux, parce que la source d'eau ne peut pas cohabiter avec le cimetière, qui est un point qui produit une pollution très dangereuse et une pollution qui ne peut plus justifier la poursuite normale de l'exploitation de ces eaux de source à servir la population. Surtout, ce que nous craignons, ce sont des métaux lourds, comme le mercure, comme les phosphores qu'on peut rencontrer dans les corps humains qui est dégagé au cours dans le processus de la décomposition.
La régie des eaux sollicite l'implication des autorités de la province du Haut-Katanga pour la délocalisation de ces sites d'inhumation. Nous ne sommes pas parvenus à joindre les responsables qui érigent ces cimetières. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 1 traversant la ville de Mbujimayi ont démarré lundi dernier. Ils consistent à revêtir près de 8 km de route. La population venue nombreuse assister au lancement a exprimé sa satisfaction car ce chantier marque une étape majeure dans l'amélioration des infrastructures routières, longtemps confrontées à une dégradation avancée, surtout en ces eaux de pluie. Des explications avec Esther Ndalafina.
La première opération a porté sur un tronçon test de 200 mètres situé au point kilométrique 3. Cette planche d'essai constitue la première portion asphaltée d'un projet de près de 8 km allant du rond-point Petrombou jusqu'au pont Loubilangi à la sortie de la ville de Mbujimayi. Financé dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par l'entreprise Grec 7 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, le projet prévoit une modernisation complète de la chaussée. Dans sa nouvelle configuration, l'infrastructure routière adopte un standard moderne comprenant 4 bandes de circulation de 3,5 mètres chacune, permettant une fluidité optimale du trafic, une bande séparatrice centrale de 1 mètre destinée à renforcer la sécurité et à réduire les risques de collision, des trottoirs en béton de 1,5 mètre facilitant la mobilité des piétons et améliorant la sécurité urbaine, des caniveaux en moellon aménagés de part et d'autre de la route pour assurer l'évacuation des eaux et prévenir les dégradations de la chaussée. Sur le terrain, ingénieur Maxime Katontoka, chef de mission de surveillance pour la CGT, a déclaré que l'entreprise travaille avec détermination pour respecter le délai dans une ambiance de mobilisation générale. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, en prélude à la conférence des gouverneurs des provinces, prévue en décembre prochain dans la ville portuaire de Matadi, un vaste programme de modernisation de la voirie urbaine est lancé. Objectif, désengorger la route nationale numéro 1 et fluidifier la circulation dans le chef-lieu du Congo central. Hier mercredi, le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, Babi Kundu, a présenté au gouverneur Grace Nkwanga Bilolo le rapport des axes prioritaires retenus pour ces travaux. On écoute Babi Kundu au micro d'Élise Kavira.
Nous avons déterminé 4 axes routiers en prélude de cette visite. Il s'est fait que le gouverneur avait demandé, par rapport à certaines urgences, de revoir ces packages de routes qui devaient être réhabilités. Et donc, sur au moins 6,5 km de la voirie de Matadi, les axes qui ont été retenus, c'est d'abord les pourtours de l'hôtel du gouvernement ici. Il y a aussi la boucle de Bungenda, la route qui en vous montez vers les stades. Il y a aussi l'avenue Lelombulu, mais aussi, finalement, la route d'accès à l'aéroport de Tchimpi. Ces travaux doivent être faits avant les débuts de la conférence des gouverneurs.
Actualité internationale.
Violence xénophobe en Afrique du Sud. Un premier groupe de Nigériens rapatriés a atterri ce jeudi 11 juin dans la matinée à Lagos, capitale économique du Nigeria. Ils ont été rapatriés d'Afrique du Sud après une montée de violences xénophobes dans la nation arc-en-ciel. Ce groupe était composé de 258 personnes, en majorité des femmes et des enfants. Certains d'entre eux n'ont jamais connu le Nigeria et ont tout à reconstruire.
L'invité.
Il s'agit du secrétaire général du syndicat libre des médecins, Silimed. Docteur André Kasongo Kasomboy parle de la décision des membres de ce syndicat d'arrêter le travail en cette période de la maladie à virus Ebola. Cette démarche a été initiée en vue d'obtenir du gouvernement l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Docteur André Kasongo Kasomboy s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour docteur André Kasongo Kasomboy.
Bonjour.
Le syndicat libre des médecins a lancé un préavis d'arrêt de travail de 3 jours, soit du 8 au 10 juin 2026. Quelles sont les raisons de cette initiative?
Merci beaucoup pour de m'avoir accepté dans votre vidéo. Les médecins au Congo en ont marre de ces impayements. Ce qui a cultivé encore le mécontentement, le gouvernement congolais va... défaut de trésorerie, a mis plus de 2500 médecins en paye complémentaire depuis 2024. Et ces médecins vont de paye complémentaire en paye complémentaire, tandis que ce sont leurs revenus de base. Du point de vue carrière de médecins, rien ne suit. Je dis, il y a des médecins qui ont fait 10 ans, 15 ans dans les actes administratifs, ne suit pas.
Donc sans avoir connu des montées en grade.
Pas des montées en grade, et cela, ça s'est fait à dessein. Cela, ce n'est que des signatures du ministre de la fonction publique, le jeune homme de fonction publique, et la signature de la première ministre et la signature du président. Cela ne vient pas depuis plus de 6 ans en RDC. Et après, les conditions de vie de médecin. Il y a la couverture santé universelle dont les factures ne suivent plus. L'initiative du président de la République de la couverture santé universelle est très salvatrice pour le peuple congolais, mais le ministère de la Santé ne tient pas à l'œil la vision du chef de l'État, d'où il y a des impayements de plus de 11 ans.
Pourquoi avoir aligné toutes les revendications dans un même palier, en lieu et place de les séparer, pour permettre aussi à l'État d'agir vite?
Ces revendications datent de plus de 4 ans. On va de promesse en promesse. C'est la première fois depuis que le Congo est Congo où une paye complémentaire peut prendre 2 ans. Actuellement, ils sont en train d'attendre 6 mois d'impayement. On a payé que le mois de janvier. Alors, ces médecins qui doivent contenir Ebola, ils vont faire comment avec cet impayement de plus de 4 mois, 5 mois, 6 mois? Et les additifs des autres catégories, d'autres médecins viennent en complémentaire. Donc, l'intégration pose problème pour la corporation médicale. Sachant qu'eux, ils doivent contenir, être en face d'Ebola. Nous, syndicats, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer à acclamer les envoyés au travail? Non! C'est la responsabilité du gouvernement. Oui, ce sont des revendications qui remontent. Nous avons même proposé des pistes de solutions aux revendications.
Croyez-vous obtenir gain de cause dans cette démarche menée de manière isolée, sans avoir associé d'autres syndicats?
Cette revendication concerne tout le monde. Il n'y a pas d'isolé. Tout le médecin est concerné par ces revendications. Tout médecin congolais est un problème de carrière. Tout médecin congolais a un problème de montée en grade. Donc, ce sont des revendications globales et générales. Quand nous allons en grève, c'est un coup de pouce. Tout le monde est obligé d'être en grève. Puisque ce malaise ne concerne pas seulement une catégorie. Non, ça concerne tout le médecin. Le problème de montée en grade, j'ai dit, c'est administratif. Qui traîne à l'occasion des... En fait, en réalité, c'est que le chef est entouré de gens qui n'ont pas capté la vision du chef de l'État.
C'est bien de réclamer vos droits. Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent aussi, vous médecins, des violations des serments d'Hippocrate en exigeant souvent l'argent avant d'administrer des soins?
Il y a les serments d'Hippocrate à côté, il y a les testaments d'Hippocrate. Qui veut que le médecin soit à bon point? Vous ne pouvez pas soigner de démunis ou bien un malade coiffeur coureux en étant coiffeur coureux. Mais le malade, vous ne serez pas un médecin digne de foi. Le médecin doit avoir un bon point. Il ne faut pas voir seulement du côté serment d'Hippocrate. Il y a aussi le testament d'Hippocrate qui veut que le médecin qui se présente devant un malade soit un médecin qui n'a pas faim, qui n'est pas démuni, Il y a des problèmes moraux, psychologiques, la famille n'a pas mangé. Alors, il faut mettre les médecins en condition pour qu'ils soient capables de combattre les virus d'Ebola. Si le médecin était bien entretenu au Congo avec la couverture de santé universelle qui donne des soins de proximité, on n'allait pas connaître le retard des détections, des retards, des déclarations d'Ebola des 62 jours. C'est pour ça qu'on a mis le médecin dans des conditions où il est déprimé, démoralisé, démotivé et puis découragé. Alors, si on traite très bien le médecin au Congo, je pense avec l'accompagnement du chef de l'État à couverture santé universelle, nous allons contenir les épidémies.
Docteur André Kasongo Kasomboy, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Notre invité était le secrétaire général du syndicat libre des médecins, Silimed, docteur André Kasongo Kasomboy, s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Fin de ce journal qui a été préparé par Élisée Tikota et Jude Mister Bilanda. Alain Goy a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.